Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes samedi 11 Farvardine 1403 du calendrier iranien, 30 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. La Syrie, la Russie et l'Iran ont condamné les raids israéliens contre la banlieue d'Alep. L'armée de l'air iranienne va dévoiler une nouvelle génération de drones et de systèmes de missiles. Le Hezbollah libanais frappe 10 sites militaires israéliens et les Marocains descendent dans la rue à l'appel du groupe d'action pour la Palestine. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le commandant de la force de défense aérienne de l'armée de la République islamique d'Iran a fait part du dévoilement d'une nouvelle génération de drones et de systèmes de défense aérienne. Lors d'une visite vendredi dans une unité de défense aérienne sur l'île de Jask, dans le sud de l'Iran, le commandant de la force de défense aérienne de la République islamique d'Iran a déclaré que la branche militaire allait dévoiler sa nouvelle génération de systèmes de missiles et de drones au cours de la nouvelle année du calendrier iranien qui a commencé le 20 mars. Selon le général de brigade Alireza Sabahifard, le commandant de la force de défense aérienne de la République islamique d'Iran, le matériel militaire de nouvelle génération jouit des capacités à jour et avancées. La défense aérienne est la première ligne de défense du pays et garantit la sécurité durable de la patrie et de l'ordre islamique, a-t-il déclaré. Le mouvement de résistance islamique du Liban, Hezbollah, a mené 10 opérations contre des sites militaires israéliens. Le Hezbollah continue de mener des opérations militaires contre les sites militaires et des soldats israéliens en soutien à la résistance palestinienne à Gaza et en réponse à la poursuite des attaques israéliennes contre le Liban. Samedi, la résistance libanaise a ciblé avec des missiles un groupe de soldats d'occupation et de véhicules militaires à l'intérieur du site d'Al-Malikiya et ses environs. La veille, le Hezbollah a confirmé avoir tiré des roquettes Falak sur le site de Jal al-Alam dans le sud du Liban et les soldats israéliens qui y sont déployés en représailles à la dernière agression israélienne contre Damas et Alep en Syrie. Les combattants de la résistance ont également attaqué le site de Metula en Haute-Galilée et ont ensuite frappé une station de blindés militaires sur le même site avec un drone d'attaque réalisant des tirs directs au cours des deux opérations. Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien, Hamas, a rencontré jeudi soir à Téhéran une délégation du djihad islamique de la Palestine dirigée par le secrétaire général de ce mouvement, Ziad al-Nakhala. Le Hamas a affirmé vendredi 29 mars dans un communiqué que la réunion s'était focalisée sur les évolutions politiques et la guerre génocidaire menée par Israël contre la population de Gaza. Les délégations des deux mouvements ont salué la résistance de la population de Gaza face à l'agression israélienne, indique un communiqué publié à l'issue de cette rencontre. Les deux dirigeants ont aussi discuté des efforts visant à mettre fin à l'agression israélienne, soulignant que le succès de toute négociation indirecte dépendrait de la cessation de l'agression, du retrait du régime occupant de la bande de Gaza, du retour des personnes déplacées et de l'entrée de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité, coïncidant avec un échange de prisonniers, indique le communiqué. Des milliers de Marocains ont défilé à Rabat pour réclamer la fin du siège israélien de la bande de Gaza et de la guerre en cours qui attise la crise alimentaire dans la zone côtière. Le correspondant de l'agence Anadolu a déclaré que des milliers de manifestants avaient défilé vendredi soir dans la capitale marocaine, Rabat, en signe de protestation contre la poursuite de la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, en violation totale de tous les droits de l'homme et des normes internationales. La marche a eu lieu à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Groupe d'action pour la Palestine. Les manifestants ont condamné les violations israéliennes de toutes les lois et normes humanitaires, ainsi que le soutien apporté par les pays occidentaux au régime de Tel Aviv. Ils ont par ailleurs appelé à protéger les civils à Gaza et à empêcher le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Selon un nouveau rapport, le président américain Joe Biden a autorisé le transfert de milliards de dollars de bombes et d'avions de combat vers Israël, bien que Washington soutienne un cessez-le-feu à Gaza officiellement et exprime publiquement leurs inquiétudes au sujet d'une offensive militaire prévue à Rafah, située dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agit d'armements capables de démolir des pâtés de maisons entiers et rarement utilisés dans les zones peuplées. Cependant, le régime israélien les a largement utilisés lors de ses attaques aériennes contre les zones civiles de la bande de Gaza. Certains démocrates américains, y compris les alliés du président Joe Biden, estiment que si Israël refuse de limiter les pertes civiles, la Maison-Blanche devrait cesser de lui envoyer des armes et assouplir en même temps les restrictions sur l'acheminement des aides humanitaires à Gaza, qui est au bord de la famine. Et enfin, les manifestants yéménites ont organisé vendredi 29 mars de grands rassemblements dans la capitale, Sanaa, et diverses provinces à travers le pays en soutien au peuple palestinien. À l'appel du leader du mouvement Ansar Allah, Abdelmalek Al-Houssi, des millions de yéménites sont descendus dans les rues de Sanaa, capitale, et dans 14 autres provinces pour exprimer leur soutien aux Palestiniens. Depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023, les Yéménites ont organisé des manifestations hebdomadaires en solidarité avec le peuple palestinien. Dans une déclaration publiée à l'issue de ces manifestations, les organisateurs ont annoncé « Les États-Unis et le Royaume-Uni doivent savoir que le temps de l'arrogance et de la domination est révolu. Tout aventurisme de la part de ces pays contre le Yémen se heurtera à la résistance des milliers de combattants. » La Syrie a condamné l'agression terroriste que l'entité d'occupation israélienne avait menée vendredi 29 mars à l'aube pour viser certaines positions dans la banlieue d'Alep, ce qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils et les militaires syriens. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à l'agence Sana, le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que la République arabe syrienne condamnait l'agression terroriste que l'entité d'occupation israélienne a menée vendredi à l'aube contre la banlieue d'Alep, ce qui a fait des tués et des blessés parmi les civils et les militaires. Des biens publics et privés ont subi des dommages matériels. La République arabe syrienne affirme que les violations israéliennes des territoires syriens et les agressions répétées contre les quartiers résidentiels prouvent l'hostilité de cette entité. Elle est la principale source d'instabilité et des souffrances dans la région. La Syrie appelle tous les pays du monde à assumer leurs responsabilités à l'égard des violations israéliennes graves et répétées des principes du droit international et du droit international humanitaire et à obliger l'entité sioniste et ceux qui la soutiennent à cesser leurs agressions et leurs crimes en Palestine, en Syrie et au Liban. Par ailleurs, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a quant à lui condamné les raids aériens de vendredi à l'aube sur Alep et a appelé la communauté internationale à faire front à l'aventurisme dangereux des sionistes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a exprimé sa sympathie au gouvernement et au peuple syrien. Les récentes frappes constituent une violation flagrante des lois internationales, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu'une menace sérieuse pour la paix et la sécurité, aussi bien au niveau régional qu'au niveau international. Alors, il est nécessaire que la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies condamnent ces attaques et prennent des mesures coercitives à l'encontre du régime sioniste, a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Les récents raids du régime sioniste, coordonnés et synchronisés avec les attaques des groupes terroristes contre des régions à Alep en Syrie, sont une preuve claire du soutien du régime d'Israël aux groupes terroristes en Syrie qui menacent depuis de nombreuses années la sécurité nationale de la Syrie et la stabilité de la région, a ajouté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. En outre, Moscou a fermement dénoncé les raids israéliens contre le nord de la Syrie qui ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils et les militaires syriens. De telles actions contre la République arabe syrienne, qui sont une violation flagrante de la souveraineté du pays arabe et des normes fondamentales du droit international, sont catégoriquement inacceptables, a déclaré plus tard dans la journée la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué. Le ministère syrien de la Défense a signalé une frappe aérienne d'Israël en provenance d'Atria, au sud de la province d'Alep, vers 1h45 de vendredi à l'aube, contre la banlieue d'Alep, au nord de la Syrie. Cette attaque a coïncidé avec une attaque de drones menée par des groupuscules terroristes depuis Idlib et la banlieue occidentale de la ville d'Alep.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 29 mars 2024 pour un nouveau débat consacré aujourd'hui aux dernières évolutions, toujours amères, toujours catastrophiques, en cours dans la bande de Gaza. On va s'intéresser aux évolutions, je vous le disais, en cours dans la bande de Gaza qui s'est transformée ces derniers temps comme un salon, une exposition vivante où on voit, où on expose de nouveaux crimes de guerre dans le monde moderne d'aujourd'hui, dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Tout le monde en parle, beaucoup de gestes, beaucoup de manifestations, des résolutions, mais rien ne bouge, rien ne change. L'Iran, une fois de plus, évoquant les récentes déclarations onusiennes, a appelé à une action forte et efficace. Je vous propose un tout petit reportage sur ces déclarations onusiennes et la réaction iranienne. Après, on se retrouve pour nous lancer dans le vif du sujet avec nos deux experts qui nous rejoignent tout de suite. Restez avec nous. Merci.
Le ministère iranien des Affaires étrangères fustige les attaques du régime israélien contre les hôpitaux de la bande de Gaza où sévit une guerre génocidaire. La guerre contre les hôpitaux et les centres de traitement de la bande de Gaza fait partie des crimes de guerre et du génocide commis par l'armée terroriste israélienne, a écrit le mercredi 27 mars le porte-parole du ministère iranien Nasser Kanani dans un message posté sur X. À la suite de l'opération surprise des groupes de résistance palestiniens contre les territoires occupés, le 7 octobre 2023, Israël a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Pour l'heure, plus de 32 500 Gazaouis, pour la plupart des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tués. Pas moins de 33 hôpitaux dans l'enclave palestinienne sont hors service. Au cours de ces dernières 24 heures, les forces israéliennes ont incendié le service de chirurgie de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza assiégée et bombardé l'hôpital Al-Amal dans la ville de Khan Younes au sud. Ils ont également attaqué l'hôpital Nasser et interpellé des sans-abri, des blessés et des membres du personnel médical. M. Kanani cite par ailleurs la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, Francesca Albanese, qui a récemment déclaré, vu l'énorme quantité de preuves des crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza au cours des derniers mois, il faudrait 5 décennies pour les instruire devant la Cour pénale internationale. Il a enfin demandé si, malgré l'ampleur des crimes des sionistes, les institutions internationales ne pouvaient rien faire d'autre qu'adopter des positions politiques, publier des déclarations ou ratifier des résolutions. Le cercle et les institutions internationales n'ont-ils pas de responsabilité pratique dans la création d'un moyen de dissuasion pour mettre fin à ce génocide flagrant et éhonté et poursuivre les criminels de guerre, s'est-il interrogé.
Voilà, retour au plateau. J'ai l'immense plaisir de recevoir nos deux experts. Il s'agit d'Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, qui nous rejoint depuis Stockholm, en Suède. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ahmad Rami. Bonjour également à Bernard Cornou, qui nous rejoint depuis Vaucluse, la France. Merci, Monsieur Cornou, d'avoir accepté notre invitation. Heureuse de vous retrouver. Alors, vous êtes analyste politique, connaisseur du terrain, ingénieur et spécialiste en énergie.
Oui, bonjour. Et j'avais créé une association qui s'appelle Jamais plus de poids et de mesure en 94-95.
Et également, je vois une petite affiche que vous avez collée sur votre jaquette. C'est intéressant comme petite signe
de la justice. Oui, la balance, la justice et la souffrance de l'humanité tant que le droit international qui prévaut n'est pas appliqué.
Merci. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Cornou. Vous, comme nous, vous suivez l'actualité liée au conflit israélo-palestinien, cette campagne génocidaire en cours dans la bande de Gaza. Vous êtes connaisseur du terrain. Alors, les crimes d'Israël pourraient occuper la Cour pénale internationale pour les 5 prochaines décennies. C'est pas moi qui le dis, c'est déclaration de Madame Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, qui a partagé une vidéo déchirante montrant un missile tiré par un drone de combat israélien s'abattre sur les civils palestiniens, les réduisant en cendres. Alors, l'Iran a appelé à une action forte, efficace. Comment réagissez-vous aux dernières évolutions en cours ?
Oui, la résolution qui a été passée par le Conseil de sécurité avec une abstention des États-Unis pour un cessez-le-feu immédiat, elle n'est effectivement pas, elle malheureusement pas contraignante parce qu'elle n'est pas passée sous le chapitre 7 de la charte. Ce sont les seules résolutions qui peuvent être appliquées par recours à la force pour appliquer le droit une fois qu'il est voté. Donc encore une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est quelque chose. Une vocation de principe, c'est un peu nouveau parce que les Américains se sont abstenus, c'est un signe, mais cela n'aboutit à rien. Par contre, ou en revanche, ce qui est plus important, c'est que hier, 28 mars, la Cour internationale de justice a publié une ordonnance, un ordre qui ajoute des mesures conservatoires à ce qu'elle avait déjà énoncé le 26 janvier et auquel elle a constaté que l'État israélien n'a pas répondu correctement et qu'au contraire, la situation de famine, de starvation de la population palestinienne, les morts envers les civils, tout ceci s'est aggravé. Et donc, elle presse de plus en plus fermement, à la quasi-unanimité, sauf parfois la voix d'une vice-présidente de la Cour ou du juge israélien, elle presse d'accomplir tout ce qui est demandé, c'est-à-dire donner un libre accès à toute l'aide humanitaire et aussi au carburant, à cesser les bombardements de civils, à faire toutes les mesures qui s'apparentent à un génocide constaté sur le terrain par Mme Francesca Albanese dans son rapport récent aussi. Et la Cour internationale de justice, et notamment la convention, est signée par la plupart des membres et la Convention sur les génocides de 1948 s'intitule « Prévention et punition du génocide ». C'est-à-dire que désormais, tous les États qui continuent à aider Israël par des livraisons d'armes, par des soutiens politiques, donc plusieurs pays européens et les États-Unis, peuvent être aussi accusés de complicité de génocide. Et je pense que si on parle de ceci dans les grands médias, dans le grand public, au Parlement français, au Congrès américain, les gens, la public, les pays verront, les populations verront que leur État est accusé de complicité de génocide si cela continue. Et je pense que ceci est une motivation forte pour que les opinions publiques pressent les gouvernements des pays qui aident encore, qui soutiennent encore Israël, à changer de position et à se décider d'arrêter toute livraison d'armes, tout soutien politique et d'exiger beaucoup plus fermement par des recours à menace à la force, s'il le faut, par des résolutions sous chapitre 7 de la charte, pour obliger l'État israélien et sa population à craindre l'avènement de ces menaces fermes et définitives, de ces faits, pour appliquer par la force le droit international qui a été jugé.
Merci beaucoup, Bernard Cornon. Alors, pour cette ouverture, Ahmad Rami, dans un rapport intitulé « L'anatomie d'un génocide » présenté par Madame Francesca Albanese, alors au Conseil des droits de l'homme à Genève, Madame a appelé les pays à imposer immédiatement des sanctions efficaces, un embargo sur la vente des armes à Israël. C'est vrai que parmi les pays européens, il y a des pays, certains pays qui ont vraiment cessé cette vente controversée. La France aussi a réagi en disant a démenti l'envoi d'armes, les pièces destinées à Israël. Bon, je vous laisse réagir.
Oui, ce qui se passe maintenant, en fait, pose la question essentiel, qui est en réalité le pouvoir d'Israël et du lobby sioniste qui lui donne le pouvoir sur les grands pays qui dirigent en fait cet Israël aujourd'hui par l'intermédiaire du CRIF et le dîner du CRIF et par l'intermédiaire aussi AIPAC aux États-Unis, et dans tous les pays, ils ont des pouvoirs sionistes qui dominent tous ces pays, ce qui paralyse en fait la communauté internationale, parce que Israël, qui occupe la Palestine militairement, occupe aussi tous les pays, y compris les pays arabes, politiquement, et ça paralyse, disons, la communauté internationale, et ça ne joue aucun rôle, les décisions du Conseil de sécurité, ni des Nations Unies, ni d'autres organisations internationales, car en fait, rien ne peut obliger Israël. Israël s'en fiche totalement du droit, du droit humain. C'est un génocide qui se passe, tout le monde en est d'accord, et malgré ça, l'Égypte reconnaît encore Israël, le Maroc reconnaît Israël, la France, les États-Unis, tous les pays reconnaissent, sont des amis d'Israël, même la Russie est un ami d'Israël, l'Ukraine est un ami d'Israël. Donc, jusqu'à présent, c'est une domination internationale qui, en fait, divulguée et démasquée par le massacre, par le génocide qui se passe en Palestine. Car si ce massacre, un tel massacre, aurait passé contre les Juifs ou contre d'autres peuples, il y aurait déjà eu une réaction énorme de la société internationale, de toute l'humanité. Alors que quand il s'agit des Palestiniens, car les massacres, ce sont des sionistes, il n'y a pas de réaction. Même des pays arabes comme l'Égypte, la Jordanie reconnaît Israël. Donc, si même l'Égypte ne réagit pas, le Maroc ne réagit pas, l'Algérie ne réagit pas, il n'y a que la République islamique d'Iran qui, depuis la révolution d'Imam Khomeini, maintenant a une attitude juste pour la justice en Palestine. Alors que le reste de l'humanité, le reste des institutions internationales, ils sont totalement paralysés, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent que regarder et commenter. Voilà.
C'est vrai que l'histoire, c'est-à-dire la participation massive des pays européens, de l'Allemagne, mais aussi avec la collaboration de France, de la France qui a été reconnue publiquement par le président Chirac il y a quelques années, a contribué au génocide des Juifs européens initié par Hitler dans le cadre d'une politique internationale et dans le cadre d'une guerre mondiale qui était en partie générée par les mauvais traités de 1919 et d'autres traités après la victoire des alliés français, anglais et américains dans la Première Guerre mondiale, la Première Guerre européenne devenue mondiale à cause justement de l'accord britannique envers les sionistes pour les aider, aider les sionistes, le mouvement sioniste notamment américain et européen, à créer un foyer national juif en Palestine en spoliant finalement la terre occupée par les Palestiniens depuis des siècles. Et donc cet enclenchement de guerre, cette histoire, il est bien connu par les spécialistes, mais il pèse sur la conscience des Européens qui se sont sentis depuis des décennies un peu obligés à soutenir l'État israélien, quoi qu'il fasse, malgré ses actions terroristes, malgré ses bombardements massifs sur le Liban. À l'été 82, plus de 22 000 morts en quelques semaines, les bombardements massifs du Liban en juillet 2006 et d'autres actions sur Gaza répétées aussi, qui ont tué beaucoup de monde, qui ont détruit et maintenant depuis 5 mois, une destruction systématique des bâtiments résidentiels et administratifs à Gaza et des hôpitaux, plusieurs hôpitaux aussi, des centres de santé, des centres de distribution d'alimentaires. Donc toutes ces crimes maintenant sont visibles très largement par les télévisions d'Al Jazeera principalement et tous ces relais en Occident et par les réseaux sociaux. Et donc il y a maintenant quand même dans le peuple d'Europe une montée d'une conscience que ces crimes de l'État israélien doivent cesser, qu'on ne peut plus tolérer tout cela comme ça a été fait depuis des décennies et qu'il est important de prendre des mesures fortes d'ordre juridique et d'ordre militaire si besoin pour obtenir l'application de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité depuis 1949. Et donc ceci est alors répété dans la dernière résolution qui a été votée le 25 mars dernier à l'unanimité pratiquement, et qui répète toutes les résolutions. Donc il faut que ces résolutions soient appliquées, y compris celle de l'Assemblée générale des Nations unies, qui prévoyait deux États. L'État israélien a été créé grâce à cette résolution de 1947, mais qui prévoyait aussi la création d'un État arabe, d'un État palestinien, en fait. Et donc ceci doit être fait. Il est important de préciser les conditions pour les problèmes les plus difficiles pour créer ce deuxième État côte à côte avec l'État israélien, c'est-à-dire le retrait de tous les colons qui n'accepteraient pas de vivre sous la souveraineté et les lois palestiniennes, qui restent évidemment à définir, mais je fais confiance aux Palestiniens pour édicter rapidement des lois tout à fait compatibles avec, disons, nos lois démocratiques qui prévalent en Occident, et pour le problème du droit à retour, à mettre une limitation. Et pour les compensations financières, ce que j'ai proposé depuis longtemps, y compris au président Delors, c'est d'instituer une triple taxe mondiale sur les armes, sur les énergies fossiles et sur les transactions financières, qui sont en fait les moyens des guerres, pour que l'ensemble du monde, qui a été complètement irresponsable, qui a été aveugle sur les turpitudes qui se passaient au Moyen-Orient, puisse contribuer à financer ces compensations financières pour la reconstruction d'un État de Palestine, pour le relogement des gens, la reconstruction, le développement. Et je fais confiance aux Palestiniens, qui sont notamment ceux de Gaza, qui sont très bien éduqués, pour participer à cet effort, si le droit international enfin permet.
Merci beaucoup, Bernard. Alors, Ahmad Rami, on va s'intéresser avec vous à un autre volet de la guerre israélienne, celle de la guerre de famine, de la faim. Israël a été sommé par la Cour internationale de justice de laisser passer à Gaza l'aide humanitaire. La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'empêcher la famine qui s'installe. Alors, apparemment, bon, il paraît que bloquer l'aide humanitaire à Gaza est une erreur stratégique d'Israël parce qu'il a fait de mauvais calculs sur l'approvisionnement en nourriture de l'enclave palestinienne assiégée depuis 2007. L'occupation israélienne est vue désormais par l'opinion mondiale comme le seul responsable de cette tragédie de la famine, et ça, c'est indéniable.
Oui, c'est la politique officielle vertement annoncée par Israël, par l'occupant israélien, que ce soit à Gaza ou dans le reste de la Palestine occupée. Maintenant, ils ont décidé d'occuper d'autres régions de la Palestine occupée aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement à Gaza, c'est ce que Israël applique aujourd'hui. C'est la loi de la force, la loi de la jungle. C'est ce qui est appliqué en réalité aussi en Ukraine. C'est-à-dire, celui qui est fort a tous les droits, celui qui est faible doit être écrasé. Donc maintenant, l'État international pêche une trois réelle, il doit appliquer la justice en Palestine. Parce qu'il n'y aura pas de paix sans une paix juste dans le monde entier, dans tous les pays. Et la Palestine ne doit pas être une exception. Cette occupation est injuste. Tous les dirigeants israéliens ne sont pas de la Palestine. Les Palestiniens n'ont pas occupé la Palestine. Ils sont de la Palestine. Ils sont de la Palestine. Alors que tous les dirigeants israéliens sont venus de l'Europe. Hein, d'autres pays, mais aucun parmi eux n'est de la Palestine. Ce sont des occupants qui ont pour but d'exterminer le peuple palestinien et de créer un État pour tout. En réalité, les sionistes ne vont pas s'installer en Palestine parce qu'ils occupent aussi la France. Il faut savoir qui est le mécanisme qui permet à Israël d'occuper la France. Par exemple, si on utilise au nouveau mécanisme de CRIF, le dîner du CRIF, AIPAC aux États-Unis, c'est ce qui fait la force d'Israël. La force d'Israël, c'est la faiblesse de ses victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, puisque c'est Israël qui décide la politique des États-Unis, donc la décision des États-Unis de donner gratuitement plus de 3 milliards d'armes par an à Israël, ce n'est pas une décision américaine, c'est une décision israélienne, parce que les États-Unis, les Américains n'ont aucun intérêt, en réalité, à entrer en guerre contre l'Iran ou contre la Palestine. C'est seulement dans l'intérêt de l'occupation injuste.
Beaucoup, Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. On va finir avec vous, Bernard Cournot. Nous n'avons qu'une minute devant nous pour conclure, peut-être.
Je crois que cette nouvelle ordonnance modificative de la Cour internationale de justice, elle est parue hier en français et en anglais. Elle est disponible sur le site, 16 pages. Elle est très précise, une fois de plus. Elle complète la plainte de l'Afrique du Sud et l'ordonnance du 26 janvier. Je pense que dans la presse française, ce week-end, on en parlera. Et dans les manifestations qui ont lieu d'ailleurs demain, à l'occasion de la journée de la terre palestinienne, qui fait commémore un massacre survenu il y a quelques années, je pense qu'on en parlera, et en tout cas moi-même j'y serai, avec mon costume de politicien, pour montrer que cette situation est inacceptable, et que les États européens et la France ne peuvent pas continuer à être complices de tant de crimes de guerre, de temps qui affecte le peuple palestinien, et qu'il est temps d'agir pour créer un État palestinien juste et fiable, comme l'a souhaité l'Union européenne depuis longtemps.
Merci beaucoup, Bernard Cournot. Heureusement qu'il existe des femmes et des hommes courageux qui dénoncent l'injustice et qui agissent pour le rétablissement de la justice. Merci à vous deux. Au revoir. À la prochaine.
Le commerce Iran-Chine a dépassé 2,87 milliards de dollars en janvier-février 2024. Les échanges commerciaux entre l'Iran et la Chine au cours des deux premiers mois de 2024 ont connu une augmentation de 37% par rapport à la même période l'année dernière. La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays en janvier et février de cette année s'est élevée à 2,79 milliards de dollars, selon le rapport de l'agence de presse IRNA, citant les données des douanes chinoises. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont été évalués à 2,098 milliards de dollars au cours des deux premiers mois de 2023. Le rapport indique que la Chine a exporté pour 2,05 milliards de dollars de marchandises vers l'Iran en janvier et février 2024, soit une hausse de 45% par rapport à la même période l'année dernière où Pékin a exporté pour 1,41 milliard de dollars de marchandises vers Téhéran. Avec une augmentation de 20%, la valeur des importations chinoises en provenance d'Iran au cours des deux premiers mois de l'année 2024 a atteint 829 millions de dollars. Pékin avait importé pour 688 millions de dollars de produits de Téhéran au cours de la même période de l'année dernière. Les analystes estiment que la valeur des importations chinoises en provenance d'Iran est nettement plus importante car les chiffres liés à l'achat de pétrole iranien par les raffineries chinoises ne sont pas inclus dans les statistiques officielles des importations du pays en provenance d'Iran. Selon les données des douanes chinoises, au cours des deux premiers mois de cette année, la valeur totale du commerce extérieur chinois a atteint 930 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,5% par rapport à la même période l'année dernière. Au cours de cette période, la Chine a exporté pour 528 milliards de dollars de marchandises, tandis que ses importations se chiffrent à 402 milliards de dollars. L'Iran renouvelle son contrat d'exportation de gaz vers l'Irak. L'Iran et l'Irak ont renouvelé un contrat pour la fourniture de gaz naturel iranien aux centrales électriques du pays arabe, selon le ministère iranien du pétrole. Le service de presse du ministère du pétrole, Shana, a déclaré mercredi 27 mars que la prolongation de 5 ans de l'accord de fourniture de gaz entre l'Iran et l'Irak avait été signée plus tôt dans la journée à Bagdad, la capitale irakienne. L'accord a été signé entre Majid Cheghini, PDG de la Société nationale iranienne du gaz, et le ministre irakien de l'électricité, Ziad Ali Fadel. L'Iran fournit du gaz naturel à l'Irak depuis 10 ans dans le cadre d'un accord signé en juillet 2013. Depuis 2017, l'Iran a exporté environ 52 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Irak, d'une valeur de 15 milliards de dollars, a affirmé le vice-ministre iranien du pétrole chargé des affaires gazières. L'offre a augmenté jusqu'à près de 50 millions de mètres cubes par jour ces derniers mois après que l'Irak ait réglé une partie de ses dettes envers la Société nationale iranienne du gaz. L'Irak dépend de l'approvisionnement en gaz et en électricité de l'Iran pour près d'un quart de sa production d'électricité. Le pays a obtenu une série de dérogations aux sanctions américaines contre l'Iran afin de pouvoir importer du gaz de son voisin oriental. Le ministre iraquien de l'électricité, Ziad Ali Fadel, a déclaré que le contrat signé avec l'Iran prévoyait l'importation du gaz naturel iranien pour une durée de 5 ans, affirmant que les centrales électriques de l'Irak avaient sérieusement besoin du gaz iranien pour produire de l'électricité. Le responsable irakien a fait noter que l'expérience des années dernières a prouvé que l'Iran est un bon partenaire économique qui a répondu aux besoins de l'Irak dans les conditions les plus difficiles. L'Irak a quotidiennement besoin de 35 000 MW d'électricité, tandis que le pays en produit seulement 20 000 MW par jour. Le tiers restant est fourni par l'importation du gaz iranien. Ces rapports sont arrivés à un moment où la Société nationale iranienne du gaz avait réduit le flux d'exportation de gaz vers l'Irak à moins de 10 millions de mètres cubes par jour en raison d'arriérés, provoquant de longues heures de coupure de courant dans les principales villes irakiennes. Un sérieux bond dans le commerce alors que le président iranien envisage de se rendre au Turkménistan. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les préparatifs étaient en cours pour la visite du président Ebrahim Raisi au Turkménistan et que les deux voisins connaîtraient une sérieuse augmentation des échanges commerciaux dans les semaines à venir. Hossein Amir Abdollahian a rencontré jeudi 28 mars à Ashgabat de hauts responsables turkmènes, dont le président du Conseil populaire du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, le président Sardar Berdimuhamedov et le ministre des Affaires étrangères Rachid Meredov. Au cours de ces réunions, nous avons échangé des points de vue sur les dimensions des relations bilatérales et les développements régionaux et internationaux, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous avons eu des discussions avancées et fructueuses sur les questions liées à l'énergie, au transit, ainsi que tensions liées à l'eau dans la région et à la nécessité d'une coopération plus forte entre Téhéran et Ashgabat pour préserver les ressources en eau disponibles dans les deux pays. Hossein Amir Abdollahian a déclaré que les deux pays coopèrent déjà dans les domaines de l'électricité et du gaz, qu'ils vont renforcer davantage. Il y a également un petit nombre de prisonniers dans les deux pays qui les ont convenus de prendre des mesures pour les extrader et les échanger, a-t-il encore dit. Le ministre a évoqué les consultations menées sur la question des droits d'eau du Turkménistan à partir du barrage de l'amitié sur leur frontière commune qui est affectée par les programmes en amont de l'Afghanistan. Il a déclaré qu'un comité mixte travaillerait pour garantir que les programmes en amont n'affectent pas les droits sur l'eau de l'Iran et du Turkménistan. Le barrage de l'amitié Iran-Turkménistan est un réservoir d'eau construit sur la rivière Harirud qui fait partie de la frontière internationale entre les deux voisins. Le barrage a été achevé en 2004 et les deux pays ont convenu que chacun aurait un droit égal aux eaux du fleuve. Le barrage fournit de l'eau potable et de l'irrigation aux zones environnantes. Harirud arrive en Iran depuis Herat, en Afghanistan, avant de tourner vers le nord et de disparaître dans le désert du Karakoum au Turkménistan. Le fleuve est sujet à de graves sécheresses saisonnières aux conséquences désastreuses. La dernière fois que le fleuve, long de 1000 km, s'est complètement asséché en 2000, la deuxième plus grande ville iranienne de Mashhad a souffert de graves pénuries d'eau. Le barrage de Salma, un projet parrainé par l'Inde sur le Harirud, qui a commencé à fonctionner en 2015, a réduit le débit d'eau annuel vers l'Iran de 71%, selon une étude de 2014 commandée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'Afghanistan abrite 5 bassins fluviaux qui font également vivre d'importantes populations en Iran, au Pakistan et en Asie centrale, mais le pays ne dispose pas d'accord de partage de l'eau avec ses voisins. La seule exception est un accord de 1973 sur le fleuve Helmand, qui coule vers l'ouest de l'Afghanistan jusqu'au Sistan et Baloutchistan en Iran. L'Iran s'est déjà plaint du non-respect par les autorités talibanes afghanes du traité de partage de l'eau. Un accord international contraignant.
Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.